La question à laquelle je souhaiterais pas répondre, parce que ce serait vraiment trop prétentieux de ma part, mais apporter quelques éclairages, ça fait plus de 3000 ans qu'elle se pose à l'humanité, et en 30 minutes, évidemment, on ne va pas y arriver. Avant même d'attaquer, j'aimerais souligner le fait que François, et alors que nous ne sommes évidemment pas concertés, a apporté une des réponses à la question qui va se poser, qui va nous être posée dans un instant. La semaine dernière, Philippe Périlla a apporté une réponse très simple à une grande question existentielle de l'humanité. Cette question, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, c'était grosso modo, d'où vient l'homme et où va-t-il ? Et cette réponse, que bien des scientifiques n'arrivent même pas aujourd'hui à trouver, malgré toutes les recherches qu'ils peuvent faire, elle se trouve dans la Bible, tout simplement, Genèse 1, c'est ce que nous a dit Philippe. Il suffit de lire les premiers versets, et l'on a cette réponse, d'où vient l'homme ? Et où il va ? Eh bien, je crois que Jésus-Christ nous le dit. Et là aussi, dans la Bible, on a une réponse. Si tu choisis de vivre pour lui, si par la foi tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu passeras l'éternité avec lui. Mais par contre, pour celui qui ne reconnaît pas, donc qui reste dans son état de pécheur, la mort. Je crois qu'il n'y a pas 50 réponses possibles à cette question. D'où je viens, où je vais. Fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est-à-dire fils et fille de Dieu, rien de plus, rien de moins, voilà ce qu'est l'homme. L'homme tel que Dieu l'a créé, et non pas le fruit d'une quelconque évolution que l'on pourrait imaginer ou que l'on cherche à démontrer. Et nous avons vu combien il était risible parfois les conséquences ou les résultats que l'on trouvait au fur et à mesure de ces recherches avancées. La question de l'origine de l'homme, la Bible nous la résout. D'autres grandes questions se posent. Certaines sont relayées par les scientifiques, certaines sont relayées par les philosophes. Depuis la nuit des temps, on en connaît un certain nombre, surtout à l'époque grecque, mais il y en a aussi de nos jours qui se les posent. Certaines de ces questions, nous les posons certainement les uns et les autres. Je suis à peu près sûr qu'on se les ait tous posées à un moment ou à un autre de notre vie. Alors pas forcément les plus jeunes, quoique c'est souvent à l'adolescence que ces questions se posent. Et j'aimerais vous en poser une ce matin, et c'est celle-ci que j'aimerais aborder avec vous. Je pense que celle-ci aussi, vous vous la posez, probablement, dans les événements parfois auxquels on est confronté. Cette question, elle en appelle une subsidiaire, et c'est, je pense, la question subsidiaire que nous nous posons, nous, réellement. La question à laquelle j'aimerais trouver quelques éléments de réponse dans la Bible, c'est « Dieu a-t-il besoin de nous ?» Et selon la réponse que l'on apporte à cette question, la question subsidiaire auquel je faisais allusion il y a un instant, c'est, quelque part, « à quoi je sers ?» Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Luc 17, les versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper. » Ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. À quoi je sers? Si je lis le début de ce verset 10, nous sommes des serviteurs inutiles. Eh bien, c'est mal parti. Si je sers à rien, alors, si je sers à rien, en gros, qu'est-ce que je fais ici? Merci, au revoir, à bientôt, à plus tard, à un autre jour. Je rentre chez moi, quoi, en gros. Cette question qui se pose pour le serviteur, derrière le serviteur, il faut voir, je crois, le travailleur. De nos jours, on est tous, à un moment ou un autre de notre vie, des serviteurs, par le travail, notamment, en particulier, lorsqu'on a un emploi, on est un serviteur. Si l'on nous dit « vous êtes un serviteur inutile au travail », on commence à se faire un gros souci. Le chômage est pas loin. Si, quand je sors de l'école, j'ai appris plein de choses, on m'a dit que je pourrais faire ceci, cela, ou ceci, ou cela, on va peut-être me renvoyer encore en formation pour approfondir mes connaissances, et qu'au final on me dit « vous êtes un serviteur inutile », pourquoi j'ai perdu mon temps pendant je ne sais pas combien d'années, aujourd'hui ça a tendance à se rallonger pas mal, sur les bancs d'une école. Bref, serviteur inutile, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là que Jésus-Christ, car ici c'est Jésus-Christ qui parle, qu'il ait voulu le dire. D'autant plus que la suite de la phrase « nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire » nous incite quand même à penser que dans l'esprit de Jésus, ce n'est pas inutile au sens de « tu n'as rien à faire » ou « tu ne sais rien faire ». Pour preuve, nous avons fait ce que nous devions faire. Cela peut vouloir signifier aussi que mon maître peut se passer de moi. C'est-à-dire qu'il peut faire le travail qu'il m'a confié. Mais s'il me l'a confié, c'est peut-être qu'il n'a pas le temps de le faire. C'est peut-être que lui-même a un autre service à accomplir. C'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas appris à le faire. Et donc, il compte sur mes compétences pour le faire, sur les dons qui m'ont été donnés. S'il me les a confiés, c'est qu'il pense que je peux les faire. Et donc, la suite de la phrase « nous avons fait ce que nous devions faire » implique bien cet aspect. Je suis là pour faire quelque chose. On m'a demandé de le faire. Même si je suis inutile, même s'il aurait pu le faire sans moi, je suis là pour le faire. J'aimerais tirer trois enseignements de ce passage. Sachant que, il faut bien qu'on ait à l'esprit que c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Le premier, c'est que le service à accomplir pour le maître passe avant toute chose. Et toute autre chose. C'est ce que nous voyons, notamment, au verset 7 et 8, le serviteur a fini de labourer le champ. Manifestement, dans sa mission de serviteur, il devait aussi servir à manger. Et donc, il enchaîne ses deux services. Puis, il pourra aller manger. Je pense que l'enseignement à tirer de ce passage, ce n'est pas de dire « le maître, il passe avant moi, regardez comme il est égoïste ». Non, certainement pas. C'est de dire « j'ai un service à accomplir ». Il commence à un instant T, il termine à un autre instant T, et tant qu'il n'est pas terminé, je dois l'accomplir jusqu'au bout. Ça s'appelle l'obéissance. Mais c'est aussi une source de satisfaction, quand on a terminé, de pouvoir dire « j'ai fait ce que je devais faire ». La question posée au verset 9 doit nous interpeller. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a accompli ce qui lui était ordonné? Est-ce qu'effectivement, on doit attendre de la reconnaissance pour le travail que l'on fait? Tu prêtes assistance à quelqu'un en danger? Tu lui sauves la vie? Oui, probablement, il te doit de la reconnaissance. Tu accomplis la mission pour laquelle tu as été embauché, pour laquelle tu es payé? Est-ce que c'est vraiment de la reconnaissance que l'on te doit? Non, tu fais tout simplement ce pourquoi tu es payé. Quoi de plus normal que d'accomplir le service pour lequel on nous a demandé, on est venu nous chercher, on nous a fait confiance. Que l'on sache simplement accomplir dignement et, je dirais, dans l'humilité, le travail pour lequel nous sommes mandatés. Bien sûr, pour le maître, ou peut-être aujourd'hui dirions-nous pour l'employeur, exprimer sa satisfaction n'est pas forcément inutile. Après tout, le Seigneur nous demande, le Seigneur est bon pour nous, il nous demande d'user de bonté, et peut-être que dire à son serviteur « Je suis content de toi, tu as bien travaillé », ce n'est pas faire preuve de reconnaissance, mais tout simplement constater que « Eh bien, je ne me suis pas trompé en le recrutant », et peut-être l'encourager à continuer. Donc, à mon sens, si le serviteur ne doit pas attendre de reconnaissance pour ce qu'il fait, il doit être payé pour cela, et il ne coûte rien, finalement, que de lui dire « Tu as bien travaillé ». C'est faire preuve de bonté envers lui, le rassurer peut-être sur ses compétences ou sa capacité. Et le troisième enseignement de ce passage, il est au verset 10. Il découle d'une contradiction flagrante entre les deux parties de la phrase, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et il va nous permettre d'aborder cette question à travers ce serviteur inutile. Dieu a-t-il besoin de nous? Ne nous dit-il pas que nous sommes ses serviteurs? Alors, serviteur inutile. Moi, je répondrais, et vous pourrez dire, mais il a fini son message, non, Dieu n'a pas besoin de nous. Voilà. Deuxième question, donc, qui en découle à mon sens, c'est à quoi je sers? Et là, si nous lisons bien, nous avons fait ce que nous devions faire. Cela signifie que notre Maître, Dieu, attend quelque chose de nous. Qu'il va se servir de nous. Qu'il va nous confier des tâches, des missions. Alors oui, ou plutôt non, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais oui, Dieu va se servir de nous. Je vais lire un certain nombre de passages rapidement. Je ne vais pas vous demander de tous les retenir, qui vont illustrer ce en quoi Dieu, à la fois, n'a pas besoin de nous, mais se sert de nous. Je vais aussi parler de l'homme, au sens générique du terme. C'est bien entendu, au même titre que le serviteur, ça peut être la servante, c'est l'homme et la femme, c'est sa création, l'humanité. Et je vais revenir à Genèse 1. Au tout début, au commencement. Genèse 1, les versets 1 à 25, nous montrent la création. Le ciel et la terre, l'eau, les êtres vivants, les animaux, les plantes. Dans tous ces versets, nous voyons que Dieu agit seul, par sa seule parole. Il parle et la lumière est. Il parle et l'eau se sépare de la terre. Il parle et les animaux sont. Il parle et les plantes poussent. Bref, Dieu agit seul, il n'a besoin de personne. Et jusqu'à cette étape-là, il n'a même pas encore créé l'homme. Qui sommes-nous pour dire que Dieu a besoin de nous? Que Dieu a besoin de nous, oui, tout à fait. À aucun moment, il n'est même assisté de qui que ce soit d'autre. Pas seulement l'homme qui n'est pas encore créé, mais des anges. Il agit vraiment seul. Le Dieu créateur aurait-il besoin de l'homme? De l'un ou l'autre quelconque d'entre nous, y compris aujourd'hui? Voilà qu'il serait bien présomptueux de le croire. Nous avons vu lors de nos différentes études depuis quelques temps, depuis la rentrée, grosso modo, un certain nombre d'attributs de Dieu. Et j'en citerai que 4, dont le dernier qu'on a étudié ce jeudi. La sainteté de Dieu, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence. S'il est tout cela, et chacune de ces caractéristiques suffit à elle seule à dire qu'il n'a pas besoin de nous. Quelqu'un qui est omniscient, qui sait tout sur tout ce qui se passe sur la terre, aurait-il besoin d'un homme qui a parfois bien du mal à voir ce qui se passe autour de lui, parfois même ce qui se passe dans sa maison? Bref, malgré tout, et bien que Dieu n'ait finalement et nécessairement pas besoin de nous, Dieu a quand même créé l'homme. Dieu dit, au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » À notre image, selon notre ressemblance. Philippe nous a dit la semaine dernière que cela signifiait « Faisons l'homme comme fils et fille pour la femme de Dieu, ni plus ni moins. » Est-ce qu'un père et une mère a besoin de son fils et ou de sa fille? Non, on peut très bien vivre sans. Quand on en a, on vit avec. Parfois c'est difficile, mais on a beaucoup de plaisir à vivre avec. Mais a-t-on besoin d'un fils ou d'une fille? Non. Par contre, dans la création, oui, on a besoin de fils ou de fille. Sinon, l'espèce s'arrête. Et surtout, on souhaite qu'il fasse des choses dans la vie. Et Dieu souhaite aussi que nous, nous fassions des choses de notre vie et dans notre vie. Et il nous confie des missions. Et la première que Dieu va confier à l'homme, elle suit immédiatement. Verset 26, toujours, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et un petit peu plus loin, les versets 28 à 30, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant de lui, en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. La mission de l'homme, la première mission que l'homme confie à Dieu, que Dieu confie à l'homme, excusez-moi le changement d'heure, je recommence. La mission que Dieu a confiée à l'homme, c'est qu'il soit le gérant, le gestionnaire de sa création. Il lui a donné, on peut dire pratiquement en lisant ce passage, il lui a donné carte blanche. À aucun moment il lui dit qu'il interviendra. Non, non. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi. Liberté presque totale. C'est ce que l'on peut lire au verset 15 du chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une seule contrainte, une seule limite fixée par Dieu. Il y a un arbre dans ce jardin auquel tu ne toucheras pas. Tout le reste, c'est à toi, fais-en ce que bon te semble. Si tu es bon gestionnaire, tu en feras bon usage. Cette seule contrainte posée par Dieu, elle implique pour nous d'y obéir. Nous voyons donc que l'homme a une parfaite liberté, mais que s'il n'obéit pas, il y aura une conséquence. La seule chose que l'homme ne doit pas toucher, c'est parce qu'il mourra certainement. Donc, moi, si on me dit tu mourras, je vais peut-être me dire finalement, l'arbre là-bas, il est joli, mais non, j'y touche pas. Bref, nous savons tous que l'homme y a touché et ce qui en découle derrière. Cette première mission confiée par Dieu à l'homme, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Nous sommes toujours le gérant des ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition. Et je suis intimement convaincu qu'il nous demandera des comptes de ce que nous avons fait de sa création, de ses créatures. La chute par désobéissance n'a rien changé à cette mission première de l'homme. Nous devons toujours gérer ce qu'il a mis à notre disposition. Elle a simplement provoqué un durcissement des conditions d'exécution de cette mission. Tu enfanteras dans la douleur. Mesdames, je crois que vous savez ce que c'est qu'un enfantement. Pour celles qui ont eu des enfants, pour certaines ça se passe bien, mais pour d'autres, tu enfanteras dans la douleur, elles savent ce que ça veut dire. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pour certains, c'est une sueur, on va dire, virtuelle. C'est plus du stress, c'est plus du intellectuel. Mais pour d'autres, c'est réellement un travail pénible. Il suffit d'aller sur certains chantiers pour voir que c'est pas simple tous les jours. Il suffit d'aller labourer la terre pendant une matinée, un jour, après plusieurs mois sans pluie, pour savoir que c'est dur la terre. Voilà, conditions d'exécution qui ont changé. Mais nous sommes toujours gestionnaires. Et ça, c'est la première mission que Dieu nous a confiée. Il pourrait la cultiver lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il pourrait faire pousser tout à fait naturellement. C'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden. L'homme n'avait qu'à se servir quelque part. Maintenant, non, nous devons travailler. J'aimerais illustrer maintenant par quelques exemples le fait que Dieu n'a pas besoin de nous, mais se sert de nous. Et pas seulement pour faire fructifier, pour gérer ce qu'il a créé. Et je vais commencer par un premier exemple. Dans le livre de la Genèse, toujours, l'exemple de Noé. En Genèse 6, les versets 7 et 8 nous posent, entre guillemets, le décor. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Nous savons qu'à cette époque-là, les versets précédents nous indiquent que l'état de dépravation de l'homme était tel que l'Éternel ne pouvait plus le supporter. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les versets 13 à 15. « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voilà comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » Ici, l'Éternel se repent de sa création. Il y a de quoi faire tout un message, voire plusieurs messages sur ce passage. L'Éternel peut-il se repentir de quelque chose qu'il a fait alors qu'il est parfait, qu'il est souverain et qu'il peut en faire ce qu'il en veut? Et là, ce qu'il en veut, c'est « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. » Le verset 8 introduit quelque chose de nouveau. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. Noé était un homme. Sans doute n'était-il pas parfait. Mais quand même, sa vie a interpellé Dieu. Il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et par grâce, pour Noé, Dieu ne va pas détruire l'humanité. Dieu ne va pas détruire toute sa création. Ici, Dieu pourrait agir tout seul, comme il a fait pour la création, construire l'arche par lui-même, appeler les animaux pour qu'ils rentrent dedans, ça il va le faire, parce qu'on imagine mal Noé aller les chercher un par un. Enfin, en tout cas moi je me l'imagine mal. Non, Dieu confie une mission à Noé. Tu construiras cette arche. Et dans cette arche, tu mettras des animaux, tu mettras ta famille. Je résume, hein, je passe très vite parce que sinon on ne va pas s'en sortir. La participation active de l'homme est ici présente. Dieu lui confie une mission, mais par contre, à un moment donné, s'arrête ce que l'homme peut faire. Les versets 15 et 16, Dieu devient le seul acteur. La mission de l'homme est terminée. Au chapitre 7. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, ce sont les animaux, de toute chair ayant souffle de vie. Et on entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Noé était à l'intérieur, il aurait pu fermer la porte de l'intérieur. Non, c'est Dieu qui ferme la porte. Là, Dieu reprend les commandes. Dieu n'avait pas besoin de Noé, mais Dieu s'est servi de Noé, parce qu'il lui a fait grâce. Et, quelque part, dans la grâce, c'est Dieu seul qui agit. Mais par grâce, Dieu nous permet d'être des acteurs de ce qu'il attend de nous, des acteurs réels. On voit aussi, plus loin, dans l'Exode, l'épisode bien connu de la traversée de la mer Rouge, on est à peu près dans la même situation. Moïse et Aaron ont conduit le peuple par le chemin que Dieu leur indiquait dans la colonne de feu. Ils arrivent devant la mer Rouge. Vous imaginez le peuple d'Israël, je ne me souviens plus précisément les chiffres, mais c'est de l'ordre de 2 millions de personnes à cette époque, plus le bétail, plus tout ce qu'ils devaient porter, qui arrivent devant la mer, avec les Égyptiens derrière qui veulent leur faire probablement pas du bien. Là encore, humainement parlant, nous sommes dans l'impasse. Et Dieu va dire à Moïse, tu mets ton bâton dans la mer, et la mer va se retirer. Ce n'est pas Moïse qui va retirer la mer. Dieu aurait pu, tout seul, au moment où le peuple arrivait, arrêter la mer, l'empêcher de couler, la faire s'enlever et créer le passage. Non, Moïse doit faire quelque chose. Tu mettras ton bâton et la mer se retirera. Là encore, c'est Dieu qui fait, mais il donne à l'homme quelque chose à faire. Il participe. Un tout petit peu plus loin dans le désert, la manne. Là, l'homme ne fait quasiment rien. Tous les matins, il n'a qu'à se baisser et ramasser ce que Dieu a fait descendre du ciel pour le nourrir. Là aussi, mission impossible pour Moïse. Comment nourrir tout un peuple dans un désert? Il n'y a pas d'eau. Donc, aucune culture possible. Dieu aurait pu rendre le sol fertile. Dieu aurait pu demander à l'homme d'amener de l'eau depuis un endroit quelconque qu'il lui aurait désigné, et puis lui dire « cultive et ça poussera », comme il a fait au Jardin d'Éden. Il a mis des plantes et elles ont poussé, il a donné ses ordres à la création, et l'homme devait gérer. Non, ici, l'homme n'a rien à faire. Rien à faire. La manne arrive par la volonté de Dieu tous les matins. Nous sommes sous l'ancienne alliance, Dieu intervient personnellement et directement. Et il utilise quelques-uns de ses serviteurs, Noé, Moïse et bien d'autres. On peut lire tout un tas de passages si on veut, où on voit que Dieu se sert, y compris de personnes qui ne croient pas en lui. On le voit notamment dans les différents épisodes qui nous sont rapportés pendant l'époque où le peuple d'Israël est en captivité. Il utilise les rois, il utilise des serviteurs. Bref, serviteurs inutiles, mais serviteurs dont Dieu se sert. qu'il nous confie un ouvrage. Et nous allons voir que sous la nouvelle alliance, eh bien, c'est toujours vrai. Premier passage dans Luc 9, au verset 1 et 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Matthieu 10, versets 1 à 15, nous donne un petit peu plus de précision. Le passage est un petit peu plus long sur la manière dont Jésus va envoyer les disciples. Ici, les apôtres reçoivent des dons. Ces dons viennent du Seigneur. Ils ne les ont pas en eux, probablement pas. Dieu agit, Dieu qualifie. Mais Jésus aurait pu aller prêcher. Tout au long des chapitres qui précèdent, nous voyons Jésus à l'œuvre et les disciples à côté de lui. Là, Jésus n'est plus ou n'est pas à l'œuvre directement. Il va utiliser les dons dont il a qualifié les apôtres pour que ce soit eux qui fassent les miracles, qui guérissent et qui annoncent la bonne nouvelle. Il n'avait pas besoin de nous, il n'avait pas besoin d'eux, mais il va se servir d'eux pour divulguer son message. Jésus va nourrir la foule. Un petit peu plus loin, les versets 12 à 17, nous voyons comment, à partir de 5 pains et 2 poissons, il va nourrir 5000 personnes. Ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est l'homme qui les a produits, les 5 pains, et les 2 poissons, c'est l'homme qui les a pêchés. Et Dieu va se servir de quelque chose que l'homme a fait pour faire un miracle. S'il était humainement impossible, à partir de 5 pains, de nourrir 5000 personnes, ou alors c'était des pains gigantesques. Bref, l'homme a fait quelque chose, il y a 5000 personnes à nourrir, Dieu fait un miracle. Et ensuite, ce sont les disciples qui vont distribuer le pain pour que chacun en ait à satiété. Là encore, Dieu à l'œuvre, l'homme à son service. Après le départ du Christ, nous voyons aussi que l'homme va avoir une mission. Une mission que Jésus-Christ lui-même va nous confier. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, avec les prophètes et dans les psaumes. » Là, il parle de sa mort et de sa résurrection. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre les Écritures, c'est ce que l'homme doit faire. Mais pour cela, Dieu, par Jésus-Christ, leur ouvre l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous ne comprenez rien. Dieu ouvre l'esprit. Et l'homme comprend. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » L'homme intervient là. « Vous êtes témoins de ces choses. » Dieu aurait pu utiliser Jésus, annoncé comme le roi des Juifs, comme le Messie, aurait pu envoyer Jésus d'une manière tout à fait extraordinaire. Un surhomme. Il est Dieu, donc forcément un surhomme. Il aurait pu utiliser tout un tas de moyens à sa disposition pour faire en sorte que l'homme reconnaisse qu'il est le Fils éternel. Non. Il y avait une œuvre de grâce à accomplir. Et cette œuvre de grâce, elle va s'accomplir par le témoignage, grâce au témoignage des hommes qui ont assisté à ces événements. Les disciples, nous sommes aujourd'hui les descendants de ces disciples. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons accepté de croire ce en quoi Jésus nous demande de croire ici et nous demande d'annoncer. Nous sommes les descendants et nous avons la mission de témoigner de ces choses. Le livre des Actes relate plusieurs miracles accomplis par les disciples. Les disciples sont à l'action grâce au Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Là encore, intervention divine, puis action de l'homme. Contrairement à ce que l'on a pu voir dans l'Ancien Testament, ici Dieu n'intervient plus personnellement et directement. Il utilise des hommes qu'il qualifie pour cela. Paul vient confirmer et rappeler à diverses reprises que l'homme, et en particulier celui qui a accepté le Seigneur dans son cœur, c'est-à-dire son Sauveur et Maître, c'est-à-dire nous les chrétiens, sont à son service et qu'il nous qualifie pour cela. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 10, par exemple, et pour commencer. Non, pardon, Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce, il m'a été donné, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui à qui le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout un tas de missions que Dieu nous confie. Pas forcément à tous, mais à chacun, selon les dons qu'il lui accorde. Complémentarité des membres du corps de Christ, des membres de l'Église, complémentarité et action de l'homme, grâce aux dons que Dieu nous fait. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 10. Je vous laisserai le soin de le lire, mais qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Paul plante, Apollos arrose, Dieu fait croître. Là encore, Dieu pourrait planter, arroser et faire croître. Non. Il utilise l'un pour planter, l'autre pour arroser. Planter, c'est annoncer la bonne nouvelle. Arroser, c'est enseigner. C'est exhorter. Et Dieu fait croître. Si ton cœur reste fermé, si Dieu n'ouvre pas ton cœur, il ne se passera rien. Et lorsqu'on plante et qu'on arrose, on doit s'en remettre à Dieu pour le fruit qu'il en résultera. De manière à ce que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous en glorifier. C'est ce qui nous est dit par la bouche de Paul à différentes reprises. Éphésiens 2, versets 8 à 10, toujours Paul, nous confirme le salut par grâce, un don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La réponse à la question « à quoi je sers ?» elle est là. Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance pour nous. À quoi je sers? Et Jacques va même plus loin. À quoi la foi sans les œuvres est morte? Il ne s'agit pas de chercher son salut par les œuvres que l'on peut accomplir. Non, non. La foi d'abord, par la foi le salut, et les œuvres viennent derrière. Parce que Dieu, à partir du moment où tu te fais son serviteur, a de bonnes œuvres à te confier. Il pourrait tout faire par lui-même. Mais là, il a besoin de toi. Et il va se servir de toi. Le service n'est pas une option. De bonnes œuvres créées pour toi. Le service n'est pas une option. Dieu fait de nous ses serviteurs. Je crois que tout ce que l'on a lu et bien d'autres passages nous permettent d'être clairs sur ce sujet. Dieu fait de nous ses serviteurs. En sa qualité de divin maître, est-ce qu'il passe dans nos vies avant toute autre chose? Cela ne nous interdit pas d'aller manger quand il est l'heure d'aller manger. Cela ne nous interdit pas de m'arrêter quand il est l'heure de s'arrêter. Mais est-ce que Dieu passe avant toute autre chose? En qualité de serviteur, nous devons avoir à cœur de le servir dans l'humilité, sans rechercher à en tirer une gloire personnelle. C'est ce que nous dit Luc 17. Tu dois être reconnaissant parce que Dieu t'a sauvé et non pas parce que tu as fait de bonnes œuvres reconnues par Dieu. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut bien entendre le terme de reconnaissance. C'est nous qui devons être reconnaissants et non pas l'inverse. Lui reconnaissant de ce que l'on peut faire. Non, non. Sachons lui obéir sans murmurer. C'est aussi ce que nous dit Luc. Nous sommes plus que de simples serviteurs. Nous sommes aussi héritiers avec Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. La récompense qui nous attend, la récompense de notre foi, c'est la vie éternelle à ses côtés. Ce n'est pas un salaire, c'est une récompense. C'est une récompense éternelle. Un salaire, il tombe et puis il s'arrête. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Il est souverain et nous sommes donc, comme le dit Luc, des serviteurs inutiles. Il peut tout faire par lui-même. Toutefois, nous avons un service à accomplir. Nous avons de bonnes œuvres préparées d'avance. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu veut se servir de moi. Dieu veut se servir de moi. Quel privilège de pouvoir dire, lorsqu'il s'est servi de moi, j'ai fait ce que je devais faire. Aujourd'hui, les deux missions, l'homme a toujours la mission initiale que Dieu lui a confiée. Que Dieu a confié à Adam, gérer sa création. Le chrétien, lui, il a deux missions. Deux missions essentielles. La première, celle d'Adam, celle du premier Adam, gérer sa création. La deuxième, celle que Jésus nous a confiée avant de quitter la terre, celle qu'il a confiée à ses disciples et par extension à nous, être ses témoins, c'est-à-dire annoncer sa mort à la croix, sa résurrection le troisième jour, le salut par grâce. La foi en tout cela. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu a formé un dessein pour nous. Se servir de nous. Soyons de bons serviteurs, inutiles, mais qui puissions dire chaque jour, la mission que Dieu m'a confiée, je l'ai accomplie.